Le réseau Afrique Santé de la Voix de l'Amérique propose
Votre santé, votre avenir.
Votre santé, votre avenir est exclusivement axé sur la lutte contre le sida en RDC.
Au micro, Khalil Gueye, votre santé, votre avenir commence maintenant. Bonjour, dans ce numéro spécial, nous recevons M. Gilbert Monda, coordonnateur du Centre d'action pour les enfants vulnérables de Goma, le CAGED. M. Monda est à Washington, où il vient de recevoir des mains de M. John Kerry, secrétaire d'État américain, une distinction pour son action dans le cadre de la lutte contre le trafic humain à Goma. M. Monda a sauvé plus de 9000 enfants congolais au cours des dernières années. Gilbert Monda, d'abord, quelle est votre histoire?
L'histoire de Gilbert Monda, ce qu'on fait avec l'histoire de CAGED. CAGED, Conseil d'action pour jeunes et enfants défavorisés, une organisation non gouvernementale de développement pour laquelle je travaille, je coordonne les activités. Alors CAGED remonte depuis 1992, principalement depuis le 1er octobre 1992. À ce moment-là, ce qui a motivé CAGED de commencer les activités, c'est que on observait beaucoup de mouvements d'enfants dans la rue. Et cette date de 1992, déjà, on commençait à avoir de mouvements disons, là, c'est le début presque des guerres ou des conflits interethniques. Alors, on observait beaucoup de mouvements des enfants dans la rue. Et cela a motivé un groupe de jeunes chrétiens, laïcs, un groupe laïque de chrétiens, à se dire qu'il peut quand même aider ses enfants qui sont en train de souffrir dans la rue. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et le but, l'objectif principal était de promouvoir de façon intégrale cette jeunesse un peu défavorisés. Donc, on va les mettre un peu dans ces droits. Et spécifiquement, on devait rencontrer ces enfants, les identifier, les écouter, et pour comprendre pourquoi ils sont dans la rue et pour voir avec eux comment on peut les aider à quitter la rue. Et dès qu'ils quittent la rue, il y avait deux possibilités. Soit on trouve que le problème qui a amené l'enfant dans la rue n'est pas très compliqué, très grave, on peut directement entrer en contact avec les parents et ramener l'enfant dans sa famille. Si on trouve que c'est pas facile de ramener directement l'enfant et qu'il faut beaucoup de médiation, on ramène dans notre centre pour convaincre finalement les parents à récupérer l'enfant ou alors pour aider l'enfant pendant que il n'a pas encore regagné la famille parce qu'il y a des enfants qui pouvaient ne pas être même du coin. Un enfant, par exemple, de Kinshasa, quand vous êtes à Goma, il est arrivé, il a été abandonné. Alors, vous voyez qu'il faut un peu de temps pour faire des recherches, réunifier. Donc là, nous sommes au début. Et on remonte maintenant vers 1993. Les conflits interethniques éclatent dans la province du Nord Kivu, le Masisi, le Walikale, etc. Et il y a des déplacements de gens. Les familles se déplacent pour fuir ces conflits. Ils viennent chercher un peu de refuge dans la ville où il y a un peu plus de sécurité. Et le rang d'enfants de la rue augmente. On évolue en 1994, c'est la guerre au niveau du Rwanda. Les réfugiés massifs traversent la frontière et viennent. Ça gonfle encore le nombre d'enfants dans la rue, le nombre d'enfants séparés, des enfants non accompagnés, etc. Et donc, vous voyez que la raison d'être des CAGED augmente et on a aidé, et on était en train d'aider beaucoup d'enfants dans ce sens-là. On remonte en 1997, le problème de mouvements de libération qui ont abouti à chasser Mobutu du pouvoir éclate avec l'AFDL qui commence les combats principalement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous évoluons. Vous voyez, dans ce genre de choses, les problèmes, les gens les plus souffrants, c'est souvent les enfants. Bon, bien d'autres, oui, les femmes et les enfants, mais nous nous focalisons surtout sur les enfants. Même si des ouvertures pour aider l'enfant, il faut absolument quelquefois aller voir qu'est-ce qui se passe dans la famille pour le stabiliser en famille. Alors, après le 1997, c'est tout un cercle là de rébellion. 1998, il y a la rébellion encore déjà qui se libère, qu'on appelle le RCD à ce moment-là. Et toute la partie est un peu paralysée, coupée du gouvernement central, si vous voulez. Mais tout ce que je veux dire là, quand il y a guerre, il y a déjà souffrance de la part des enfants. Et maintenant, à partir de 1997, vous voyez avec ces guerres de libération, qu'ils ont appelées comme ça, le phénomène enfant-soldat apparaît. Donc les enfants sont recrutés, engagés dans des conflits, dans des combats. Soit ils peuvent être au front, ils peuvent être des espions, ils peuvent être des cuisiniers, ils peuvent être des porteurs. Donc tout un tas d'activités, tous ces enfants-là, globalement, on les appelle des enfants, enfants associés aux forces et groupes armés. Ce n'est pas nécessairement qu'il a pris l'arme et qu'il a combattu. Il y a cette catégorie qui a combattu, mais il y a d'autres qui sont portés, ceux qui vont puiser de l'eau, ceux qui font la cuisine, les filles qui sont comme des femmes ou disons qui on abuse comme pour des violences sexuelles. Ces phénomènes apparaît déjà avec, à partir de 1997, des libérations à libération. Je ne veux pas vous dire de l'AFDR, nous allons au RCD, l'Assemblement Congolais pour la démocratie, nous allons au CNDP, nous avons tout un tas d'autres groupes armés, des Maïmaï, tout un tas de groupes. Donc tout ça, les enfants sont en train de souffrir et d'être engagés, recrutés et engagés dans ces forces et groupes armés. Alors, c'est toute une motivation. Alors, CAGED, spécifiquement dans ses objectifs, comme nous avons parlé de la promotion intégrale de cette jeunesse qui est un peu défavorisée, et CAGED qui avait focalisé tout au début sur le phénomène enfant de la rue qu'il voyait, les enfants soldats sont aussi parmi les enfants les plus défavorisés que jamais. Alors, cette catégorie aussi a attiré l'attention de CAGED pour voir comment on peut les aider à sortir de cet engrenage et de remettre en famille, les aider, les réintégrer socio-économiquement. Pratiquement, la sortie massive d'enfants associés aux forces et groupes armés remonte à commencer chez CAGED depuis 2005. Même si en 1999, il y avait sorti timide d'enfants des forces et groupes armés. Donc tout dépendait de comment le gouvernement commençait à comprendre, même les rebelles, que c'est vraiment un crime que d'utiliser les enfants. Timidement, ça a commencé en 1999. La première sortie que CAGED a accueillie, le jour où le volcan, il y a eu éruption volcanique sur Goma, je pense que ça doit être en 2002, en janvier 2002, nous avons fui en traversant la frontière au Rwanda-Gisenyi, avec déjà une quarantaine d'enfants sortis des forces et groupes armés que nous étions en train d'encadrer et préparer à rentrer dans leur famille. Mais donc, les activités intenses avec les enfants sortis des forces et groupes armés ont commencé depuis 2005 dans notre centre. Et depuis ce temps, CAGED a pu accueillir, accompagner, réunifier et une bonne partie d'enfants réintégrés socio-économiquement. Plus de presque 9 000 enfants. Bon, actuellement, on peut apprécier les filles, c'est, les filles sortent à compte-gouttes, mais ils approchent le 9000. Si on fait un dixième, c'est combien? C'est dans le 300. Oui. Presque un dixième des filles. Le reste, ce sont des garçons. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants? En fait, il y a tout un temps d'activité. Et quand le pouvoir commençait à s'installer, on vous dit qu'il y a un programme national qui a été mis en place, programme national de démobilisation, réinsertion des enfants, bien entendu. Le programme s'intéresse aussi aux adultes, mais moi je parle des enfants. Et ce programme que nous exécutons, donc notre expérience avec les enfants de la rue a fait que on a sollicité encore notre expérience aussi pour aider ces enfants sortis des forces groupes armées ou qu'on devait sortir des forces groupes armées. Et qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord tout un processus décrit même dans ce programme. Il y a d'abord l'identification de présumés enfants. Cela se fait chez les commandants, dans une situation formelle. Ça se fait chez les commandants. On envoie des fiches chez les commandants, identifie. Mais comme on va de rébellion à rébellion, vous comprenez que on passe des situations formelles et quelquefois à des situations informelles. Parce que la loi maintenant reconnaît que l'enfant ne doit pas avoir d'enfant soldat. Tout ce qu'il y a comme enfant soldat, ils doivent sortir sans condition. Et donc, que ce soit pendant que le gouvernement reconnaît qu'on doit faire l'opération de sortie ou de réintégration des groupes armés, là, officiellement, on peut aller sortir des enfants. Mais même s'il n'y a pas un programme officiel qui est indiqué, les enfants doivent sortir. Donc, l'identification peut se faire chez les commandants, tout comme les organisations, les agences de protection aussi peuvent le faire. Et quand on a déjà identifié le présumé enfant, il s'ensuit le programme de l'opération de vérification. La vérification aide à savoir si réellement c'est un enfant. Parce que si ce n'est pas un enfant, lui, il va entrer dans le programme adulte. Il y a un autre processus que je ne domine pas. Ce n'est pas mon domaine. Mais pour l'enfant, lorsqu'il a été identifié, présumé, enfant associé aux forces groupes armés, l'opération qui va suivre, c'est la vérification. On vérifie. C'est une fiche qui a des questions qui s'entrecoupent et qui peut vous montrer que c'est vraiment un enfant. Dès qu'il est certifié enfant, maintenant on le récupère, nous l'amenons dans notre centre, qu'on appelle un centre de transit et d'orientation. Ou alors on peut aussi le mettre dans une famille d'accueil. Là où il y a le centre, on peut le mettre dans le centre, mais on peut aussi le mettre dans une famille d'accueil. Et là, nous appelons ça structure d'encadrement transitoire. Là, on le prépare pour regagner la famille. Et pendant ce temps, on fait la documentation de l'enfant pour comprendre comment il est allé dans les forces et groupes armés, qui l'a recruté, qui a fait quoi. Et finalement, quel est son projet d'avenir. L'enfant doit dire son projet d'avenir. Et comme ça, quand on va l'aider, on sait comment on va s'y prendre. Soit ceux qui avaient interrompu les scolarités peuvent rentrer à l'école. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier peuvent apprendre un métier pour leur vie. Bon, au centre maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est tout un travail de préparation qui se fait et d'accompagnement psychosocial. Vous voyez, ce sont des enfants souvent traumatisés. Et même d'accompagnement pédagogique, je vous explique un peu. Pendant que le séjour de l'enfant dans le centre, l'enfant qui n'a pas eu la chance d'apprendre à lire et à écrire et à calculer, le fait pendant ce temps, un tout petit peu, pour ne pas perdre de temps pendant qu'il est là. Alors il peut rentrer à la maison déjà préparé, soit à rentrer à l'école, même s'il doit faire un métier. Vous voyez que ça demande un peu de les calculs des lectures, même un menuisier, il doit prendre le maître, même un couturier, etc. Et ceux qui savent, ceux qui avaient interrompu les scolarités, pendant ce temps aussi, peuvent être remis à niveau. Donc on le prépare pour que quand il rentre, il ne perd pas du temps, il rentre là déjà à niveau pour rentrer dans la classe où il était et monter et continuer.
Gilbert Monda, votre travail doit comporter beaucoup de risques, et même des risques venant des enfants que vous voulez sauver.
C'est risqué, mais comme je le disais, le programme national déjà existe. Et en fait, quand nous sommes en train de travailler maintenant, c'est comme si nous sommes un peu en appui au gouvernement. C'est de la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement, généralement, dans ce genre de choses de protection de l'enfant, coopère et en partenariat avec UNICEF. Et nous, nous sommes les partenaires de l'UNICEF dans le programme de protection. C'est dans ce sens-là que nous agissons. Et nous bénéficions donc des appuis de l'UNICEF. Et c'est comme ça que nous arrivons à mener ces activités. Je vous ai parlé en remontant qu'il y a d'abord l'identification, pré-identification, il y a vérification et puis certification. Lorsqu'on vient de certifier que c'est un enfant associé aux forces groupes armés, maintenant on ressort et on l'amène dans une structure d'encadrement transitoire. Vous avez parlé du centre de transit et d'orientation CTO, où on peut aussi le placer en famille d'accueil. Pendant qu'il est dans la structure d'encadrement transitoire, c'est là où je vous parlais des activités qu'il y a. Il y a d'abord toute une documentation sur l'enfant et tout un tas de fiches, mais les principaux, comme je vous disais, le problème, quand il faut d'abord le vérifier et le certifier. Quand il arrive maintenant, on commence à aller bien le documenter, le connaître, le comprendre, ce qu'il est, comment il a été dans l'armée, qui il était avec, qui, tout ça. Et après, on arrive en dernière analyse à savoir quel est son projet d'avenir. Qu'est-ce que vous, quand on va vous remettre en famille, vous, qu'est-ce que vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez faire? Et donc, pendant ce temps, nous les préparons maintenant à rentrer dans la famille au niveau du centre. Il y a tout un tas d'activités, comme je vous disais, à la de l'accompagnement psychosocial et pédagogique. Apprendre à lire, écrire et calculer pour ceux qui ne le savent pas, remettre à niveau ceux qui ont interrompu leur scolarité et d'autres enfants qui ne veulent pas, par exemple, qui ne s'intéressent pas de ces activités. Vous voyez, nous avons affaire à des enfants traumatisés. On a imaginé d'autres activités, diverses activités, à la de l'initiation au petit métier, avoir une main habile. Il y en a qui font de la vannerie, il y en a qui font des cartes postales, qui font les dessins de décoration, il y en a qui apprennent la guitare, il y en a qui font des danses folkloriques, il y en a qui font les jardins potagers, il y en a qui font de l'élevage de lapins. Donc tout un tas d'activités pour essayer d'encadrer tout un chacun. Et l'accompagnement psychosocial consiste essentiellement à l'écoute et entretien actif. C'est tout pour ces enfants que vous voyez qu'il ne s'intéresse à rien, il ne joue pas avec les autres, il est isolé, il est un peu agité, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, comment l'aider, etc. Et quand c'est souvent difficile, l'enfant est agité, on peut l'amener dans un centre qui traite des aspects psychologiques. Et donc, dans ce sens-là, étant donné que ces enfants viennent de différents groupes armés qui se battent sur terrain, donc des ennemis d'hier qui se retrouvent ensemble dans le centre. Alors, il y a aussi parmi les activités que nous menons, l'accompagnement psychosocial, pédagogique, etc., nous avons aussi l'initiation ou l'éducation à la paix et à la cohabitation pacifique. Même une éducation morale. Et l'enfant doit savoir ses devoirs, ses droits, etc. Et donc, voilà comment on s'y prend. Et pendant tout ce temps, on est en train donc de le préparer pour rentrer en famille calmement, avec harmonie. Et nous faisons des recherches familiales en même temps. Et là où les parents ne sont pas d'accord d'accueillir l'enfant, la médiation va s'en suivre pour le convaincre. Mais heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui refusent leurs enfants. Mais ceux qui refusent, nous savons que chez nous en Afrique, la famille, ce n'est pas papa et maman seulement. On peut et de voir l'oncle, on peut voir la tante, on peut voir le frère, on peut voir le grand-père. Parmi tous ces gens, tout le monde ne va pas réviser l'enfant. Bon, voilà. Donc, lorsque l'enfant est déjà réunifié, maintenant, qu'est-ce qui reste? Il faut maintenant se tourner pour voir son projet d'avenir qu'il avait décrit. Et on se retrouve dans ce que nous appelons une recherche action participative où on discute avec les enfants accompagnés de leurs parents pour voir son projet d'avenir. Est-ce que relativement à l'environnement, est-ce que ça va aller, ça va marcher, etc. Et donc, c'est un long processus parce que dans cette réintégration socio-économique, il y a ceux qui ont choisi l'école peuvent aller à l'école, on les aide là-bas. Et ceux qui ont choisi une autre filière, une filière économique, par exemple l'élevage, par exemple l'agriculture, par exemple l'apprentissage des métiers comme la menuiserie, la couture, la cordonnerie. Il y a tout un tas, une variété de filières. Donc on les accompagne là-bas. Il y en a qui font une formation de longue durée.
Sauver 9 000 enfants, c'est quand même un travail énorme qui demande beaucoup de sacrifices de votre part.
Oui, c'est dire que c'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation. Beaucoup d'abnégation et nos déçois, surtout dans un milieu où il y avait toujours des recrudescences, des insécurités, des groupes qui menacent de prendre la ville et même qui prennent la ville. Vous imaginez, vous êtes avec des enfants comme ça. Souvent, on est en train d'imaginer une stratégie. S'il faut fuir, comment on va fuir et nous retrouver avec les enfants? Il faut donc avoir une stratégie. Et la présence, ça demande une présence. Par exemple, moi-même, mon épouse me dit, mais nous sommes, quand nous avons des problèmes, par exemple, la ville tombe entre les mains des rebelles, ou elle va tomber, elle est menacée. Vous n'êtes pas là. Vous allez voir vos enfants là-bas. J'ai dit oui. Imagine, au moins nos enfants, vous êtes avec eux. Ces enfants dont nous avons la responsabilité, donc nous sommes comptables de ces enfants. S'il faut fuir, s'il y a ceci, on doit être là et voir comment les sauver. Et voilà, donc, on oublie même chez soi. Et s'il y a des problèmes la nuit, quelquefois on doit sortir dans une ville où la circulation n'est pas aisée comme ici. L'éclairage, c'est vraiment compliqué. Donc, par exemple, des agitations et on m'appelle. Je suis coordinateur et si les encadrés sont dépassés, ils m'appellent. Je dois aller. Même si je sais que je risque même de rencontrer des bandits, je risque d'être tué, j'y vais. Et les enfants, et même quand il faut les préparer, souvent ils viennent avec un esprit de vandalisme. Vous voyez, en fait, tout le mal que les adultes font sur les enfants. Imaginez-vous si vous vous préparez un enfant, dès le bas âge, vous l'apprenez à tuer et à manipuler l'arme et à faire de vandalisme. Donc, un enfant comme ça qui il va vous montrer, il vous dit, bon, des forces, il peut vous imposer ce qu'il veut. Mais évidemment, comme des assistants sociaux, comme des agences de protection, nous sommes préparés à ça. Nous devons savoir prendre en charge tout ça. Et dans ce que je suis en train de vous dire, ces enfants sont allergiques à tout ce qu'il y a comme des histoires de fusil. Quand ils voient un policier, quand ils voient un militaire, donc ils sont un peu traumatisés. Ils n'aiment pas ce genre de choses. Donc, si vous dites, moi, je suis tel, et que vous voulez leur montrer que vous savez plus qu'ils vont dire, ils vous montrer aussi qu'ils savent. Mmh. Et c'est ça le danger. Mais quand ils sont en train de se révolter, le problème qu'il y a, nous ne pouvons pas faire intervenir la police. La police, pas ni les militaires, là, c'est, ils n'entrent même pas dans l'enclos, là où ils sont.
Les enfants les voient comme des ennemis.
Oui, les voient comme des ennemis. Et surtout quand ils voient un policier, là, ils disent, celui-là, ce qu'ils disent, c'est un civil. Un civil, c'est-à-dire donc qui même s'il a l'arme, l'enfant dit qu'il peut lui arracher ça facilement. C'est un civil, ce qu'ils disent. Donc, lorsqu'il y a des problèmes, des agitations, nous ne faisons pas intervenir la police. Les militaires, vous voyez ce qu'ils ont fait avec les enfants, non plus. Et dans la déontologie, les militaires, les policiers ne doivent pas entrer dans l'enclos des enfants, même s'il y a des problèmes. Bon, bien sûr, ils peuvent s'imposer si ça devient dangereux, mais nous, la déontologie, on ne fait pas appel à ces gens quand il y a des agitations. Nous discutons ouvertement avec les enfants pour voir qu'est-ce que vous voulez pour leur montrer que, par exemple, ce que vous demandez, c'est impossible. Et quand c'est compliqué, nous pouvons faire appel à d'autres agences de protection. Et dans une rencontre, bon, disons là, que nous appelons généralement, le terme est en anglais aussi, le meeting, nous rencontrons, il n'y a pas de questions tabou. Alors chacun se déballe, il parle et nous cherchons des solutions ensemble. Et c'est comme ça que nous travaillons avec ces enfants. Mais heureusement que la situation a quand même évolué. Tout au début, là, quand ils sortaient, vers les années 2005, c'était vraiment compliqué, très agité, etc. Mais progressivement, maintenant, ils ont déjà compris parce que les premières sorties et les actions que nous menons à leur faveur, ils comprennent quand vous lui expliquez que, bon, voilà, on va vous suivre jusque dans votre famille pour vous appuyer, vous aider si vous voulez étudier, vous aider à apprendre tel ou tel métier. Donc là, ils comprennent, les agitations vont en diminuant.
Est-ce qu'il ne vous est pas arrivé que des enfants se révoltent contre vous-même et vous menacent?
Oui, ben, c'est ce que je vous dis, à résumer. Bon, quand ils sont déjà fâchés, ils peuvent faire un blocus. Vous pouvez entrer dans le centre et ne pas être capable de sortir. Pourtant, vous n'allez pas vous battre avec eux. Bon, s'ils disent, nous bloquons, et ils vous arrachent toutes les clés, même des bureaux, tout. Ils bloquent.
Ça s'est passé?
Oui, ça s'est passé. C'est pas là, une fois ou une ou deux fois. Donc, vous voyez qu'on reçoit toute une vague, d'année en année, des vagues en vagues. Ils arrivent qu'ils bloquent. Ils bloquent. Mais souvent, ils sont aussi très malins. Ils peuvent bloquer, mais peut-être ils disent, bon, les cuisiniers, bon, peuvent... l'infirmier, puis entre les autres, non. Et ils sont très malins.
Stratégie de guerre. Alors, vous avez été décoré par le secrétaire d'État américain John Kerry. Quel est votre sentiment?
En tout cas, c'est un sentiment de joie, de sentiment de réconfort, parce que vraiment, moi, je ne m'y attendais même pas. Quand j'ai On m'a dit, bon, tu vas aller à Washington. Mais Washington, mais quoi? Quand on dit, vous êtes héros, mais le terme héros, c'est très fort, c'est un terme très fort. Moi, je ne me comptais pas, je me dis, héros, c'est quand même très fort. Mais quand j'analyse, je me sens réconforté. Je dis quand même, le gouvernement américain, ah, quand même, regarde, ce que nous faisons, c'est ce travail. Donc, moi, je me dis, donc, ces gens-là aussi reconnaissent quand même que nous faisons quelque chose de bon. Et donc, ça nous réconforte, ça nous encourage. Et je pense que ça va être même une émulation pour les autres agences aussi, qui vont se dire, si Gilbert Dicajed a été congratulé comme ça ou a été nominé, donc, si nous faisons aussi des efforts, moi je faisais ça, je ne m'attendais pas à quelque chose. Ça, c'est arrivé comme ça. Mais ça m'encourage, ça me réconforte. Je pense que, Dieu étant, nous allons aller de l'avant, nous allons redoubler d'efforts.
Gilbert Monda, merci.
Merci aussi.
Votre santé, votre avenir, c'est terminé. Nous recevions M. Gilbert Monda, coordonnateur du Centre d'action pour les enfants vulnérables de Goma, le CAGED. Réalisation Fatouma Kalala. Micro Khalil Kay. Au revoir et à la semaine prochaine.